Chers frères et sœurs, nous sommes en présence d'une promesse faite par Jésus qui m'interroge. Un joug facile, un fardeau léger, et puis cette promesse du repos. Je ne vois pas très bien comment cela peut fonctionner dans le contexte que nous connaissons. Je ne vais pas tout repasser par le détail. Ma consœur Solange Weiss l'a suffisamment bien fait la semaine dernière pour dire à quel point c'est sombre, catastrophique et extrêmement angoissant. Il suffirait finalement de penser à ce que fut la vie de Jésus. Comment imaginer que le joug de Jésus est facile à porter, que le fardeau est léger et qu'au fond, le repos est possible, que le repos est à portée de main. C'est ce côté assez paradoxal de la promesse de Jésus qui m'interroge parce que dans une certaine mesure, j'ai l'impression que le discours religieux est toujours plombé par ce côté un peu idéal, fort sympathique, mais complètement irréaliste, complètement déconnecté de notre réalité. Et je trouve que dans un contexte où nous sommes tous fatigués, certains sont au bord de l'épuisement, une telle parole peut être extrêmement catastrophique parce qu'elle culpabilise. Elle nous donne le sentiment qu'au fond, nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux, tout d'abord, mais aussi à la hauteur de la foi chrétienne. Autrement dit, nous serions comme des mauvais croyants. Et ce qui m'interroge, c'est les dégâts que peut faire une telle parole dans une situation comme la nôtre, qui est pourtant extrêmement réelle. C'est à se demander si l'Évangile, au fond, ne nous confine pas dans une bulle qui serait tout à fait étrangère au monde, tout à fait étrangère à ce que les uns et les autres vivent. Sauf que nous sommes nous-mêmes pris dans le monde. Et lorsque nous sortons d'un culte, lorsque nous sortons d'une lecture biblique, lorsque nous sortons du temps de la prière, eh bien au fond, il faut bien se coltiner ce joug et ce fardeau qui, je trouve, n'ont vraiment rien de léger et rien de facile. Alors c'est cela que j'aimerais interroger avec vous maintenant dans le cadre de cette méditation biblique. Tout d'abord, il me semble extrêmement utile de constater que le texte biblique ne parle pas du repos en général. Tout d'abord, il y a effectivement la promesse du repos, mais quand on va au verset suivant, on se rend compte que c'est du repos de l'âme dont Jésus parle. Et le repos de l'âme est évidemment bien autre chose que le repos du corps ou le repos de l'intelligence, par exemple. Le repos de l'âme, ce n'est pas la mort. La promesse de Jésus ne consiste pas à dire, au fond, la seule façon de s'en sortir, la seule façon d'échapper à cette situation catastrophique, c'est de mourir. Au moins, une fois que vous serez mort, vous serez tranquille, ça sera le repos éternel. Le repos de l'âme, c'est bien le repos de ce que la Bible nomme l'âme. Et l'âme n'a rien de quelque chose d'inerte. L'âme, ce n'est pas un quelque chose, d'ailleurs. L'âme, dans la Bible, c'est une manière de parler de toutes ces personnes qui sont tendues vers un idéal de vie, ce que la Bible nomme Dieu. L'âme, c'est lorsque nous nous tenons face à Dieu. Alors voyez, cette expression particulièrement religieuse mérite d'être interrogée parce que se tenir face à Dieu, c'est à la fois très sympathique, très poétique, lyrique si je l'applique à moi-même, mais qu'est-ce que ça signifie dans la vie quotidienne ? Bien, je pense que on peut le comprendre de deux manières différentes. Se tenir devant Dieu, être une âme, c'est tout d'abord savoir que nous tirons notre existence d'un autre que nous-mêmes. Une âme, c'est quelque chose qui signifie, enfin c'est pas un quelque chose, c'est justement le fait que nous soyons tendus devant Dieu qui est la source de notre existence. Dieu qui nous tire vers le monde, qui nous tire vers une plus grande humanité. Et cela est très déculpabilisant justement. Parce que ça signifie que tout ne dépend pas de nous. Ce que nous sommes n'est pas d'abord ce que nous faisons ou ce que nous avons fait, mais ce qu'on a fait de nous dans une perspective divine, c'est-à-dire nous porter sur les fonts baptismaux, pour le dire avec une formule religieuse, c'est-à-dire nous donner une place dans cette existence, nous donner une place au sein de l'humanité. Tout ne dépend pas de nous. C'est ce que nous découvrons lorsque nous nous tenons face à Dieu. Nous sommes au bénéfice d'une providence, c'est-à-dire au bénéfice de paroles qui ont été prononcées avant que nous existions et qui donnent du sens à notre vie. Et ce sens, c'est justement le deuxième aspect du face-à-face avec Dieu, du se tenir devant Dieu, du coram deo, pour le dire avec la formule latine chère à Martin Luther. L'âme, qui est donc cette tension vers Dieu, c'est une manière de dire que c'est le royaume de Dieu que nous avons en ligne de mire. L'âme, c'est le fait de viser la justice, de viser la fraternité telle qu'en parle l'Évangile, et ceci dans un cadre universel. Non pas la fraternité avec les proches, non pas la fraternité avec la famille biologique, non pas la fraternité avec les amis, non pas la justice pour soi, mais la justice pour tous. Une fraternité universelle. Voilà ce que nous fait découvrir ce face-à-face avec Dieu. Le sens de notre vie est en lien avec celles et ceux qui partagent notre condition humaine, et elle est orientée vers ce que la Bible nomme la justice, et vers ce que la Bible décrit comme étant la fraternité. Ces liens de solidarité avec celles et ceux que l'Évangile révèle être nos frères et nos sœurs. Alors, essayons de voir un peu plus précisément ce que désigne l'âme, pour savoir ce que signifie le repos de l'âme. Eh bien, tout d'abord, il est important de comprendre que l'âme, c'est ce qui nous fait désirer ce qui a valeur d'absolu. L'âme, c'est notre capacité à désigner ce que Dieu désigne. On peut penser par exemple à Moïse, qui se promenait tranquillement avec le troupeau de son beau-père, Jéthro. Il n'avait aucune idée de ce que serait sa vie. Il avait certainement une existence très agréable, très paisible, mais il se tient à un moment donné face à face avec Dieu. C'est l'expérience du livre de l'Exode au chapitre 3, face à ce buisson ardent qui s'avère être un symbole de Dieu. Eh bien, Moïse va découvrir que sa vie était peut-être un peu dépourvue de sens jusque-là et qu'elle n'était pas vraiment à la mesure d'une fraternité universelle. Il se trouve chargé d'une mission dont il va dire « mais c'est trop lourd pour moi, je ne suis pas capable, je suis presque incompétent, je ne suis pas à la hauteur de ce que tu me demandes, Seigneur ». Mais ce face-à-face avec Dieu va lui faire prendre conscience qu'en fait, ce qui va être difficile, c'est la mise en œuvre peut-être du projet. Mais ce projet donne en fait un sens à sa vie qui va renouveler complètement son existence et qui va lui donner le repos de l'âme. Parce que l'âme n'aura plus besoin d'errer au milieu de tout ce fatras qui fait notre vie quotidienne, au milieu de tout ce fatras qui fait la matière première de nos médias, parce que nous nous mettons à viser quelque chose qui signifie une justice ultime, alors notre âme trouve du repos. Elle s'attache enfin à quelque chose qui va faire fructifier notre humanité et qui va faire fructifier l'humanité de celles et ceux qui sont autour de nous. Autrement dit, nous allons être en harmonie, nous-mêmes, avec notre environnement, avec l'histoire de nos contemporains. Et c'est cela qui va susciter un véritable repos. Nous ne serons plus en permanence angoissés, je ne dis pas inquiets, mais angoissés par la question de notre place ici-bas sur Terre. Vous savez, la fameuse question, mais qu'est-ce que je fais ici? À quoi bon tout ça? Eh bien, au fond, cette question, elle est résolue. Parce que nous avons peut-être une lutte à mener. Nous avons peut-être une cause à défendre. Nous avons peut-être même une situation à développer. Nous avons des projets à mener. Eh bien, ça, c'est ce que l'âme désire. C'est ce qui va mobiliser tout notre être, toute notre énergie, toute notre intelligence, notre créativité. Et c'est ce qui va reconstituer l'unité de notre être. Et donc, vous voyez, la question du repos que Jésus nous met devant les yeux, ce n'est pas finalement une sorte de quiétisme. Ce n'est pas le repos au sens du farniente, de la sieste, avec un corps qui serait complètement relâché, avec un cerveau qui serait complètement débranché. Tout est mobilisé, toutes nos facultés sont mobilisées, tous nos talents sont mobilisés. Mais ils sont mobilisés pour une cause, pour un objectif, pour un projet, pour une visée, pour une perspective, pour un horizon qui va nous apporter une sérénité profonde. Car nous ne serons plus angoissés par la question de « que dois-je faire pour bien faire ? Que m'est-il permis d'espérer ?» Tout cela trouvera une résolution. Et nous n'aurons plus finalement qu'à mettre en œuvre les moyens pour atteindre cela. Alors, je dirais que le premier bénéfice de cette parole, c'est que Jésus met à notre disposition un idéal de vie, à un horizon d'humanité auquel nous pouvons dire oui. Et c'est cela certainement l'enseignement le plus important de l'Évangile. Et c'est cela que les théologiens essaient de faire valoir. C'est que la spiritualité nous permet d'édifier notre désir en vivant en harmonie avec Dieu, c'est-à-dire avec ce qui a un caractère universel, j'insiste un peu dessus, mais je crois que c'est important, ce qui favorise l'intérêt général, pour le dire d'une manière peut-être un peu moins philosophique, pour ce qui ne sacrifie personne. Voilà, on pourrait le dire de façon négative. Vivre en faisant en sorte que personne ne soit jamais sacrifié par notre manière de vivre. Et puis, cela nous met en relation avec nos frères et sœurs en humanité, et au fond, c'est ensemble que nous pouvons faire face à ce qu'il y a de plus ultime dans la vie. La spiritualité favorise le désir, un désir coordonné au désir de l'autre. Au fond, il y a une sorte de coopération, et c'est quelque chose dont parlera l'apôtre Paul dans l'une de ses lettres. Nous sommes coopérants de Dieu, en ce sens que nous coopérons les uns avec les autres dans le cadre de cet intérêt général à développer. Alors dire oui au Créateur, dire oui à Dieu, vous voyez, c'est dire oui au dynamisme créateur dont il est la source dès le premier livre de la Bible, dès le premier chapitre en Genèse 1. Dire oui à Dieu, dire oui à l'Évangile de Jésus-Christ, c'est adhérer nous-mêmes à ce dynamisme créateur qui, évidemment, renouvelle la vie. Et vous voyez, quand on renouvelle la vie dans le sens de plus de justice, de plus d'ordre, eh bien, au fond, cela nous apaise. Quand nous arrivons à ranger notre intérieur, que ce soit notre salon, que ce soit notre bureau, parfois nous y arrivons, eh bien, il y a une sorte de repos de l'âme, parce que nous ne sommes plus en permanence à essayer de viser quelque chose, nous ne sommes plus à chercher ce dont nous avons besoin. Ce que nous recherchons, ce dont nous avons besoin, est facile à identifier, et du coup, nous pouvons nous orienter directement vers cela. Au fond, cette mise en ordre de nos sentiments intérieurs, cette réorganisation de notre désir profond, c'est ce qui nous apporte du repos. Et voyez, dans ces temps particulièrement troublés, où une sorte de chaos à l'extérieur et en fait en nous-mêmes, la spiritualité, c'est ce travail de remise en ordre, ce travail d'organisation de tout ce qui fait notre vie pour pouvoir diriger tout cela vers cet horizon qui correspond à la plénitude de notre être. Alors la croissance spirituelle, c'est à la fois une responsabilité individuelle à l'égard de notre monde et puis le développement de notre créativité. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est pas un quiétisme auquel Jésus nous appelle, parce que le fait que toutes nos facultés soient mobilisées en direction de ce que l'Évangile nous révèle montre bien qu'il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir y aller. Bien. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est peut-être de tirer une conséquence pratique de cela. Et j'aimerais justement revenir sur ce que je disais au départ, le risque que ces versets soient des versets qui nous culpabilisent à outrance. Je pense qu'au contraire, ce sont des versets qui déculpabilisent et qui nous rendent la vie plus simple. Parce qu'au fond, je dirais que ce que nous pouvons retenir de cela, ou si on devait résumer peut-être cette perspective en une phrase, en une formule, peut-être un peu un slogan, c'est de dire que l'intendance suivra. Vous voyez, quand notre âme vise ce qu'il y a de plus juste, ce qui nous sera le plus favorable, sans que cela sacrifie les autres qui se tiennent à côté de moi, eh bien, on peut du coup se dire que notre vie s'en trouve renouvelée, parce que dans ce cas-là, nous sommes à même de penser notre quotidien en fonction de cela. On pourrait dire de façon assez pratique, un peu dans la logique organisationnelle, si on fixe d'abord les objectifs, eh bien, au fond, ça sera plus facile de mettre les moyens en œuvre pour atteindre ces objectifs. C'est un petit peu cela que nous révèle l'Évangile. Lorsque nous sommes tendus vers ce qui a un caractère ultime, alors l'intendance suit. Nous savons ce qu'il faut pour ou du moins, nous avons un peu une intuition de ce qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre ce caractère ultime, atteindre ses objectifs, pour pouvoir mener à bien ce projet. Quand on sait où on veut aller, eh bien c'est plus facile sur une carte routière de forger son chemin. ou si vous avez un GPS, il faut bien avoir la destination pour qu'il puisse organiser le trajet, soit le plus court, soit le plus rapide, soit le plus économique. Au fond, l'Évangile nous permet de nous préoccuper de notre destination, parce que l'Évangile nous aide à élucider notre destination. Je parle de destination plutôt que de destin, parce que le destin risque de nous faire penser à la fatalité. Or, il n'y a pas de fatalité dans cette histoire. Il y a le choix de la destination qui est la plus appropriée pour nous, sans qu'elle se fasse sur le dos de l'autre. Et vous voyez, c'est en ce sens que c'est extrêmement déculpabilisant. Le joug, le fardeau de Jésus sont effectivement des choses légères et faciles, parce que ce n'est pas les moyens à mettre en œuvre qui sont en jeu, c'est la destination. La destination, nous dit Jésus, eh bien, elle est accessible. Elle n'est pas éloignée là-haut dans le ciel pour que nous demandions « mais qui nous l'ira chercher ?» ou là-bas, au-delà des mers, pour que nous demandions également « qui nous l'ira chercher ?» Elle est là, tout près de nous, dans notre cœur. L'Évangile nous révèle ce que nous pouvons être. Et je dis bien « être », parce qu'au fond, ce que dit Jésus, c'est que l'Évangile nous révèle qu'une vie épanouie, une vie fidèle à ce qu'est l'Évangile, c'est une vie avec moins d'avoir et plus d'être. Et au fond, c'est cela qui rend notre vie plus facile. Lorsque nous nous dépréoccupons de la question matérielle pour nous intéresser de façon privilégiée à la question de l'être, à la question de l'humain, à la question de l'autre et de soi-même. Les possessions nous possèdent, disait Théodore Monod à juste titre, et elles nous rendent dépendants, et elles nous pourrissent la vie dans une certaine mesure. Elles ne sont pas inutiles, elles ne sont pas à rejeter. Nous ne devons pas être comme l'Adam initial, c'est-à-dire avec juste la peau sur les os. Mais nous ne devons jamais mettre les moyens en tête. Pourquoi ? Parce que si nous mettons d'abord les moyens, si nous pensons d'abord à ce que nous devons avoir, eh bien au fond, notre vie sera toujours dépendante des biens matériels. Elle sera toujours dépendante des moyens dont nous disposons à l'heure actuelle. Elle sera toujours dépendante de notre revenu actuel ou de notre patrimoine actuel ou de notre compte bancaire actuel. La grande question pour nous, c'est comment organiser notre vie au quotidien. Et voyez, si je reviens sur la question de la pandémie, mais on pourrait aussi bien revenir sur la question du terrorisme, qui est aussi une préoccupation extrême aujourd'hui, eh bien nous pouvons organiser notre vie en fonction de cela. Et au fond, notre vie sera soumise à ces deux choses qui, au lieu d'être des paramètres, deviendront en quelque sorte Dieu, c'est-à-dire le principe organisateur de notre vie. Eh bien, l'Évangile nous dit que le principe organisateur, en quelque situation que ce soit, ne sont jamais les réalités secondes ou secondaires. Ce n'est pas la condition sanitaire, ce n'est pas la condition terroriste qui doivent dicter notre façon d'être aujourd'hui. Ce sont des paramètres dont il faut tenir compte. C'est impératif. On ne badine ni avec l'un, ni avec l'autre, ni avec la santé, ni avec la sécurité. Mais ce n'est pas ce qui vient en tête de nos préoccupations. Ce n'est pas ce qui vient en tête de notre champ lexical, pour le dire avec le philosophe John Rawls. L'Évangile nous rappelle qu'il faut toujours hiérarchiser et qu'il ne faut jamais mettre à la place de Dieu ce qui n'est que réalité seconde, ce qui n'est qu'idole, pour le dire avec le vocabulaire biblique. Alors vous voyez, cela nous aide à penser notre vie. C'est un peu comme lorsqu'on organise la vie de l'Église. Est-ce qu'on organise la vie de l'Église en fonction du budget qu'on a, ou est-ce qu'on organise le budget en fonction de la vie de l'Église à laquelle nous sommes appelés ? Eh bien, c'est vrai aussi pour notre vie quotidienne. Comment organisons-nous notre budget, mais aussi notre agenda ? Est-ce qu'on l'organise en fonction de ce qui est juste, de ce que nous voulons vivre, de ce que nous sommes appelés à vivre, à entreprendre ? Ou est-ce que nous agissons en fonction de notre temps disponible ? Est-ce que nous nous rendons disponibles pour faire ce qui est le plus intéressant, pour faire ce qu'il y a de plus fondamental, ou est-ce que nous faisons ce qu'il y a de plus fondamental à la condition d'avoir le temps ? Eh bien, c'est exactement cela que dit Jésus. Il dit, le repos, c'est quand vous cesserez d'être en conflit avec votre système de valeurs, quand vous cesserez d'être en conflit avec le système de valeurs tel que l'Évangile vous le révèle. Vous voyez, ce conflit qu'on appelle le péché, finalement. Le péché, c'est cette distance entre ce que nous pourrions faire et ce que nous faisons effectivement. Alors cela implique une véritable conversion, bien évidemment. Et la Bible est traversée de cette logique de la conversion. Passer d'un ordre des choses à l'ordre évangélique. Passer de l'ordre naturel à l'ordre divin. Passer de, eh bien au fond, on subit le cours des événements à, nous imprimons dans l'histoire cet évangile qui nous dit, on ne transige pas avec les questions de justice universelle. On ne transige pas avec les questions de fraternité universelle. On ne transige pas avec la grâce. On ne transige pas avec le bonheur. On ne transige pas avec l'autre. On ne transige pas avec soi-même. Nul ne doit être sacrifié. Et quand on est d'accord avec cela, alors l'inquiétude ne disparaît pas. Nous restons profondément inquiets de pouvoir mener cela à bien. Nous pouvons être profondément inquiets de savoir comment nous ne faisons pas entrave au surgissement du royaume de Dieu et de sa justice. Et nous sommes désangoissés, parce qu'au fond, nous savons où nous allons. Nous ne sommes plus comme les Hébreux qui errent dans le désert et qui n'atteindront jamais la terre promise. Au contraire, nous nous rendons vers la terre promise. Alors cela, vous voyez, ne supprime pas le contexte extrêmement difficile dans lequel nous sommes. Cela ne supprime pas la pandémie, cela ne supprime pas la menace terroriste, mais cela remet chaque chose à sa juste place. Cela nous rappelle que nous sommes humains parce que justement, nous ne transigeons pas avec ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie. Et par exemple, nous ne sacrifions pas la justice au profit de la sécurité. Nous ne renonçons pas à nos principes démocratiques lorsque nous avons établi un cadre démocratique qui correspond le mieux à l'égalité, par exemple, et aussi à la possibilité pour chacun de faire valoir sa liberté. Nous ne sacrifions pas cet espace démocratique au profit de la santé ou de la sécurité. Tout cela correspond bien à cet acte de résistance provoqué par l'Évangile, nourri par la foi qui est cette adhésion ferme à ce qui a valeur d'ultime dans notre vie. Dire oui à Dieu, c'est extrêmement désangoissant, c'est extrêmement reposant, parce que nous n'avons plus à rechercher en permanence ce qui va être le critère d'une vie bonne. Nous avons finalement quelques critères pour évaluer nos choix, mais aussi pour évaluer nos paroles. Vous savez, pour évaluer nos retweets, nos partages sur les réseaux sociaux, pour finalement évaluer ce que nous transmettons, ce que nous relayons, ce que nous sommes. Eh bien, l'Évangile, de ce point de vue-là, est effectivement une vraie source de repos. Pas de quiétisme, pas de sieste, pas de farniente, mais enfin, la fin de la culpabilité et la fin de l'angoisse pour pouvoir se consacrer pleinement à une vie qui nous rendra profondément heureux. Je crois que c'est cela aussi que Max Weber avait essayé de repérer dans le travail des réformateurs en disant que la réforme protestante avait libéré l'esprit d'entreprise. Alors ce n'est pas à restreindre simplement au champ financier ou au champ de l'industrie, au champ économique. Oui, il est vrai que nous sommes libérés pour pouvoir faire ce que Dieu nous donne à entendre comme la possibilité d'une vie bonne, la possibilité d'une vie marquée par ce bonheur et cette grâce dont le psaume 23 ne cesse de nous redire qu'ils sont à portée de main. Alors, j'espère tout simplement que ces trois versets de l'évangile de Matthieu ne seront plus compris par vous et par moi, bien sûr, des fois, comme une sorte de petit hocher qui nous fait entendre un petit bruit qui nous distrait du réel. Bien au contraire, c'est une invitation à injecter de la spiritualité dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, dans les fléaux sociaux auxquels nous sommes confrontés, pour que ce monde corresponde effectivement à cet idéal de vie dont parle la Bible avec cette métaphore que je garde pour la fin, ce pays où coule le lait et le miel. Amen.